Chapitre 10 et dernier. Les trois mariages se firent promptement et donnèrent lieu à des fêtes, des bals, des repas qui entraînèrent pour plusieurs mois le vieux Claès dans le tourbillon du monde. Son fils aîné alla s'établir à la terre que possédait près de Cambrai Coninx, qui ne voulait jamais se séparer de sa fille. Madame Pierquin dut également quitter la maison paternelle pour faire les honneurs de l'hôtel que Pierquin avait fait bâtir et où il voulait vivre noblement, car sa charge était vendue et son oncle Déraquet venait de mourir en lui laissant des trésors lentement économisés. Jean partit pour Paris où il devait achever son éducation. Les Solis restèrent donc seuls près de leur père, qui leur abandonna le quartier de derrière en se logeant au second étage de la maison de devant. Marguerite continua de veiller au bonheur matériel de Balthazar et fut aidée dans cette douce tâche par Emmanuel. Cette noble fille reçut par les mains de l'amour la couronne la plus enviée, celle que le bonheur tresse et dont l'éclat s'est entretenu par la constance. En effet, jamais couple n'offrit mieux l'image de cette félicité complète, avouée, pure, que toutes les femmes caressent dans leurs rêves. L'union de ces deux êtres, si courageux dans les épreuves de la vie, et qui s'étaient si saintement aimés, excita dans la ville une admiration respectueuse. M. de Solis, nommé depuis longtemps inspecteur général de l'université, se démit de ses fonctions pour mieux jouir de son bonheur et rester à Douai où chacun rendait si bien hommage à ses talents et à son caractère que son nom était par avance promis au scrutin des collèges électoraux quand viendrait pour lui l'âge de la députation. Marguerite, qui s'était montrée si forte dans l'adversité, redevint dans le bonheur une femme douce et bonne. Claès resta pendant cette année gravement préoccupé, sans doute. Mais s'il fit quelques expériences peu coûteuses et auxquelles ses revenus suffisaient, il parut négliger son laboratoire. Marguerite, qui reprit les anciennes habitudes de la maison Claès, donna tous les mois à son père une fête de famille à laquelle assistaient les Pierquin, les Coninx, et reçut la haute société de la ville à un jour de la semaine où elle avait un café qui devint l'un des plus célèbres. Quoique souvent distrait, Claès assistait à toutes les assemblées et redevint si complaisamment homme du monde pour complaire à sa fille aînée que ses enfants purent croire qu'il avait renoncé à chercher la solution de son problème. 3 ans se passèrent ainsi. En 1828, un événement favorable à Emmanuel l'appela en Espagne. Quoiqu'il y eût entre les biens de la maison de Solis et lui 3 branches nombreuses, la fièvre jaune, la vieillesse, l'infécondité, tous les caprices de la fortune s'accordèrent pour rendre Emmanuel l'héritier des titres et des riches substitutions de sa maison, lui le dernier. Par un de ces hasards qui ne sont vraisemblables que dans les livres, la maison de Solis avait acquis le comté de Nouro. Marguerite ne voulut pas se séparer de son mari, qui devait rester en Espagne aussi longtemps que le voudraient ses affaires, et elle fut d'ailleurs curieuse de voir le château de Casarreal, où sa mère avait passé son enfance, et la ville de Grenade, berceau patrimonial de la famille Solis. Elle partit en confiant l'administration de la maison au dévouement de Martha, de Josette et de Lemulquinier, qui avaient l'habitude de la conduire. Balthazar, à qui Marguerite avait proposé le voyage en Espagne, s'y était refusé en alléguant son grand âge, mais plusieurs travaux médités depuis longtemps et qui devaient réaliser ses espérances furent la véritable raison de son refus. Le comte et la comtesse de Soli Inuro restèrent en Espagne plus longtemps qu'ils ne le voulurent. Marguerite y eut un enfant. Il se trouvait au milieu de l'année 1830 à Cadix, où il comptait s'embarquer pour revenir en France par l'Italie. Mais il reçut une lettre dans laquelle Félicie apprenait de tristes nouvelles à sa sœur. En 18 mois, leur père s'était complètement ruiné. Gabriel et Pierre Quint étaient obligés de remettre à l'émule cuquinier une somme mensuelle pour subvenir aux dépenses de la maison. Le vieux domestique avait encore une fois sacrifié sa fortune à son maître. Balthazar ne voulait recevoir personne et ne mettait même pas ses enfants chez lui. Josette et Martha étaient mortes. Le cocher, le cuisinier et les autres gens avaient été successivement renvoyés. Les chevaux et les équipages étaient vendus. Quoique le mulquinier gardât le plus profond secret sur les habitudes de son maître, il était à croire que les 1 000 francs donnés par moi par Gabriel Claès et par Pierre Quint s'empouillaient en expérience. Le peu de provisions que le valet de chambre achetait au marché faisait supposer que ces deux vieillards se contentaient du strict nécessaire. Enfin, pour ne pas laisser vendre la maison paternelle, Gabriel et Pierre Quint payaient les intérêts des sommes que le vieillard avait empruntées à leur insu sur cet immeuble. Aucun de ses enfants n'avait d'influence sur ce vieillard, qui à 70 ans déployait une énergie extraordinaire pour arriver à faire toutes ses volontés, même les plus absurdes. Marguerite pouvait peut-être seule reprendre l'empire qu'elle avait jadis exercé sur Balthazar, et Félicie suppliait sa sœur d'arriver promptement. Elle craignait que son père n'eût signé quelques lettres de change. Gabriel, Coninx et Pierre Quint, effrayés tous de la continuité d'une folie qui avait dévoré environ 7 millions sans résultat, étaient décidés à ne pas payer les dettes de M. Claès. Cette lettre changea les dispositions du voyage de Marguerite, qui prit le chemin le plus court pour regagner Douai. Ses économies et sa nouvelle fortune lui permettait bien d'éteindre encore une fois les dettes de son père. Mais elle voulait plus, elle voulait obéir à sa mère en ne laissant pas descendre au tombeau Balthazar déshonoré. Certes, elle seule pouvait exercer assez d'ascendant sur ce vieillard pour l'empêcher de continuer son œuvre de ruine, à un âge où l'on devait s'attendre aucun travail fructueux de ses facultés affaiblies. Mais elle désirait le gouverner sans le froisser, afin de ne pas imiter les enfants de Sophocle, au cas où son père approcherait du but scientifique auquel il avait tant sacrifié. Monsieur et Madame de Solis atteignirent la Flandre vers les derniers jours du mois de septembre 1831 et arrivèrent à Douai dans la matinée. Marguerite se vit arrêter à sa maison de la rue de Paris et la trouva fermée. La sonnette fut violemment tirée sans que personne répondît. Un marchand quitta le pas de sa boutique où l'avait amené le fracas des voitures de M. de Solis et de sa suite. Beaucoup de personnes étaient aux fenêtres pour jouir du spectacle que leur offrait le retour d'un ménage aimé dans toute la ville et attirées aussi par cette curiosité vague qui s'attachait aux événements que l'arrivée de Marguerite faisait préjuger dans la maison Claès. Le marchand dit au valet de chambre du comte de Solis que le vieux Claès était sorti depuis environ 1 heure. Sans doute monsieur le mulquinier promenait son maître sur les remparts. Marguerite envoya chercher un serrurier pour ouvrir la porte afin d'éviter la scène que lui préparait la résistance de son père, si, comme le lui avait écrit Félicie, il se refusait à l'admettre chez lui. Pendant ce temps, Emmanuel alla chercher le vieillard pour lui annoncer l'arrivée de sa fille, tandis que son valet de chambre courut prévenir M. et Mme Pierre Quint. En un moment, la porte fut ouverte. Marguerite entra dans le parloir pour y faire mettre ses bagages et frissonna de terreur en en voyant les murailles nues, comme si le feu y eût été mis. Les admirables boiseries sculptées par Van Huysium et le portrait du président avaient été vendus, dit-on, à Lord Spencer. La salle à manger était vide. Il ne s'y trouvait plus que deux chaises de paille et une table commune sur laquelle Marguerite aperçut avec effroi deux assiettes, deux bols, deux couverts d'argent et sur un plat les restes d'un hareng sort que Clarisse et son valet de chambre venaient sans doute de partager. En un instant, elle parcourut la maison, dont chaque pièce lui offrit le désolant spectacle d'une nudité pareille à celle du parloir et de la salle à manger. L'idée de l'absolu avait passé partout comme un incendie. Pour tout mobilier, la chambre de son père avait un lit, une chaise et une table, sur laquelle était un mauvais chandelier de cuivre, où la veille avait expiré un bout de chandelle de la plus mauvaise espèce. Le dénuement y était si complet qu'il ne s'y trouvait plus de rideaux aux fenêtres. Les moindres objets qui pouvaient avoir une valeur dans la maison, tout, jusqu'aux ustensiles de cuisine, avaient été vendus. Ému par la curiosité qui ne nous abandonne même pas dans le malheur, Marguerite entra chez le mulquinier, dont la chambre était aussi nue que celle de son maître. Dans le tiroir à demi fermé de la table, elle aperçut d'une reconnaissance du monde-piété, qui attestait que le valet avait mis sa montre en gage quelques jours auparavant. Elle courut au laboratoire et vit cette pièce pleine d'instruments de science comme par le passé. Elle se vit ouvrir son appartement. Son père y avait tout respecté. Au premier coup d'œil qu'elle y jeta, Marguerite fondit en larmes et pardonna tout à son père. Au milieu de cette fureur dévastatrice, il avait donc été arrêté par le sentiment paternel et par la reconnaissance qu'il devait à sa fille. Cette preuve de tendresse reçue dans un moment où le désespoir de Marguerite était au comble, détermina l'une de ces réactions morales contre lesquelles les cœurs les plus froids sont sans force. Elle descendit au parloir et y attendit l'arrivée de son père, dans une anxiété que le doute augmentait affreusement. Comment allait-elle le recevoir, le revoir? Détruit, décrépit, souffrant, affaibli par les jeûnes qu'il subissait par orgueil. Mais aurait-il sa raison? Des larmes coulaient de ses yeux sans qu'elle s'en aperçût en retrouvant ce sanctuaire dévasté. Les images de toute sa vie, ses efforts, ses précautions inutiles, son enfance, sa mère heureuse et malheureuse, tout, jusqu'à la vue de son petit Joseph, qui souriait à ce spectacle de désolation, lui composait un poème de déchirante mélancolie. Mais, quoiqu'elle prévît des malheurs, elle ne s'attendait pas au dénouement qui devait couronner la vie de son père, cette vie à la fois si grandiose et si misérable. L'état dans lequel se trouvait M. Claës n'était un secret pour personne. À la honte des hommes, il ne se trouvait pas à Douai deux cœurs généreux qui rendissent honneur à sa persévérance d'homme de génie. Pour toute la société, Balthazar était un homme à interdire, un mauvais père qui avait mangé six fortunes, des millions, et qui cherchait la pierre philosophale au XIXe siècle, ce siècle éclairé, ce siècle incrédule, ce siècle, etc. Alors on le calomniait en le flétrissant du nom d'alchimiste, en lui jetant au nez ce mot « Il veut faire de l'or !» Que ne disait-on pas d'éloges à propos de ce siècle, où, comme dans tous les autres, le talent expire sous une indifférence aussi brutale que l'était celle des temps où moururent Dante, Cervantes, Tasse et Tutti Quanti. Les peuples comprennent encore plus tardivement les créations du génie que ne les comprenaient les rois. Ces opinions avaient insensiblement filtré de la haute société douaisienne dans la bourgeoisie et de la bourgeoisie dans le bas peuple. Le chimiste septuagénaire excitait donc un profond sentiment de pitié chez les gens bien élevés, une curiosité railleuse dans le peuple, deux expressions grosses de mépris et de ce « vae victis » dont sont accablés les grands hommes par les masses quand elles les voient misérables. Beaucoup de personnes venaient devant la maison Claës se montrer la rosace du grenier où s'étaient consumés tant d'or et de charbon. Quand Balthazar passait, il était indiqué du doigt. Souvent, à son aspect, un mot de raillerie ou de pitié s'échappait des lèvres d'un homme du peuple ou d'un enfant. Mais le mulquinier avait soin de le lui traduire comme un éloge et pouvait le tromper impunément. Si les yeux de Balthazar avaient conservé cette lucidité sublime que l'habitude des grandes pensées y imprime, le sens de Louis s'était affaibli chez lui. Pour beaucoup de paysans, de gens grossiers et superstitieux, ce vieillard était donc un sorcier. La noble, la grande maison Claës s'appelait dans les faubourgs et dans les campagnes la maison du diable. Il n'y avait pas jusqu'à la figure de le mulquinier qui ne prêta aux croyances ridicules qui s'étaient répandues sur son maître. Aussi, quand le pauvre vieux zilote allait au marché chercher les denrées nécessaires à la subsistance, et qu'il prenait parmi les moins chères de toutes, ne tenait-il rien sans recevoir quelques injures en manière de réjouissance? Heureux même si souvent, quelques marchandes superstitieuses ne refusaient pas de lui vendre sa maigre pitance en craignant de se damner par un contact avec ce suppôt de l'enfer. Les sentiments de toute cette ville étaient donc généralement hostiles à ce grand vieillard et à son compagnon. Le désastre des vêtements de l'un et de l'autre y prêtait encore. Ils allaient vêtus comme ces pauvres honteux qui conservent un extérieur décent et qui hésitent à demander l'aumône. Tôt ou tard, ces deux vieilles gens pouvaient être insultés. Pierre Quint, sentant combien une injure publique serait déshonorante pour la famille, envoyait toujours, durant les promenades de son beau-père, deux ou trois de ces gens qui l'environnaient à distance avec la mission de le protéger, car la révolution de juillet n'avait pas contribué à rendre le peuple respectueux. Par une de ces fatalités qui ne s'expliquent pas, Claës le mulquinier, sorti de grand matin, avait trompé la surveillance secrète de M. et Mme Pierre Quint et se trouvait seuls en ville. Au retour de leur promenade, ils vinrent s'asseoir au soleil sur un banc de la place Saint-Jacques où passaient quelques enfants pour aller à l'école ou au collège. En apercevant de loin ces deux vieillards sans défense et dont les visages s'épanouissaient au soleil, les enfants se mirent à en causer, et ordinairement les causeries d'enfants arrivent bientôt à des rires, et du rire ils en vinrent à des mystifications sans en connaître la cruauté. Sept ou huit des premiers qui arrivèrent se tinrent à distance et se mirent à examiner les deux vieilles figures en retenant des rires étouffés qui attirèrent l'attention de le mulquinier. « Tiens, vois-tu celui-là ? dont la tête est comme un genou. Oui, eh ben, il est savant de naissance. Ouais, papa dit qu'il fait de l'or, dit un autre. Par où? C'est-il par ici ou c'est-il par là? Ajouta un troisième en montrant d'un geste goguenard cette partie d'eux-mêmes que les écoliers se montrent si souvent s'ils le méprisent. Le plus petit de la bande, qui avait son panier plein de provisions et qui léchait une tartine beurrée, s'avança naïvement vers le banc et dit à le mulquinier « C'est-il vrai, monsieur, que vous faites des perles et des diamants ?»« Mais oui, mon petit milicien, » répondit le mulquinier en souriant et lui frappant sur la joue. « Nous t'en donnerons quand tu seras bien savant. » « Ah, monsieur, donnez-moi aussi !» fut une exclamation générale. Tous les enfants accoururent comme une nuée d'oiseaux et entourèrent les deux chimistes. Balthazar, absorbé dans une méditation d'où il fut tiré par ses cris, fit alors un geste d'étonnement qui causa un rire général. « Allons, gamin, respect à un grand homme !» dit le mulquinier. « Voilà Chioli !» crièrent les enfants. « Ah, vous êtes des sorciers !»« Oui, sorciers, les vieux sorciers, sorciers nards !» Le mulquinier se dressa sur ses pieds et menaça de sa canne les enfants qui s'enfuirent en ramassant de la boue et des pierres. Un ouvrier qui déjeunait à quelques pas de là, ayant vu le mulquinier levant sa canne pour faire sauver les enfants, crut qu'il les avait frappés et les appuya par ce mot terrible « À bas les sorciers !» Les enfants, se sentant soutenus, lancèrent leurs projectiles qui atteignirent les deux vieillards au moment où le comte de Solis se montrait au bout de la place, accompagné des domestiques de Pierre Quint. Ils n'arrivèrent pas assez vite pour empêcher les enfants de couvrir de boue le grand vieillard et son valet de chambre. Le coup était porté. Balthazar, dont les facultés avaient été jusqu'alors conservées par la chasteté naturelle aux savants, chez qui la préoccupation d'une découverte anéantit les passions, devina par un phénomène d'intussusception le regret secret de cette scène. Son corps décrépit ne soutint pas la réaction affreuse qu'il éprouva dans la haute région de ses sentiments. Il tomba frappé d'une attaque de paralysie entre les bras de le mulquinier qui le ramena chez lui sur un brancard, entouré par les deux gendres et par leurs gens. Aucune puissance ne put empêcher la populace de Douai d'escorter le vieillard jusqu'à la porte de sa maison, où se trouvaient Félicie et ses enfants, Jean, Marguerite et Gabriel, qui, prévenus par sa sœur, étaient arrivés de Cambrai avec sa femme. Ce fut un spectacle affreux que celui de l'entrée de ce vieillard qui se débattait moins contre la mort que contre l'effroi de voir ses enfants pénétrant le secret de sa misère. Aussitôt, un lit fut dressé au milieu du parloir. Les secours furent prodigués à Balthazar, dont la situation permit, vers la fin de la journée, de concevoir quelques espérances pour sa conservation. La paralysie, quoique habilement combattue, le laissa néanmoins assez longtemps dans un état voisin de l'enfance. Quand la paralysie eut cessé par degrés, elle resta sur la langue qu'elle avait spécialement affectée, peut-être parce que la colère y avait porté toutes les forces du vieillard au moment où il eut apostrophé les enfants. Cette scène avait allumé dans la ville une indignation générale. Par une loi, jusqu'alors inconnue, qui dirige les affections des masses, cet événement ramena tous les esprits à M. Claës. En un moment, il devint un grand homme. Il excita l'admiration et obtint tous les sentiments qu'on lui refusait la veille. Chacun vanta sa patience, sa volonté, son courage, son génie. Les magistrats voulurent sévir contre ceux qui avaient participé à cet attentat, mais le mal était fait. La famille Claës demanda à la première que cette affaire fût assoupie. Marguerite avait ordonné de meubler le parloir, dont les parois nues furent bientôt tendues de soie. Quand, quelques jours après cet événement, le vieux père eut recouvré ses facultés et qu'il se retrouva dans une sphère élégante, environné de tout ce qui était nécessaire à la vie heureuse, il fit entendre que sa fille Marguerite devait être venue au moment même où elle rentrait au parloir. En la voyant, Balthazar rougit, ses yeux se mouillèrent sans qu'il en sortît des larmes. Il put presser de ses doigts froids la main de sa fille et mit dans cette pression tous les sentiments et toutes les idées qu'il ne pouvait plus exprimer. Ce fut quelque chose de saint et de solennel, l'adieu du cerveau qui vivait encore et du cœur que la reconnaissance ranimait. Épuisé par ses tentatives infructueuses, lassé par sa lutte avec un problème gigantesque et désespéré peut-être de l'incognito qui attendait sa mémoire, ce géant allait bientôt cesser de vivre. Ses enfants l'entouraient avec un sentiment respectueux, en sorte que ses yeux purent être recréés par les images de l'abondance, de la richesse, et par le tableau touchant que lui présentait sa belle famille. Il fut constamment affectueux dans ses regards par lesquels il put manifester ses sentiments. Et ses yeux contractèrent soudain une si grande variété d'expressions qu'ils eurent comme un langage de lumière facile à comprendre. Marguerite paya les dettes de son père et rendit en quelques jours à la maison Claës une splendeur moderne qui devait écarter toute idée de décadence. Elle ne quitta plus le chevet du lit de Balthazar, de qui elle s'efforçait de deviner toutes les pensées et d'accomplir les moindres souhaits. Quelques mois se passèrent dans les alternatives de mal et de bien, qui signalent chez les vieillards le combat de la vie et de la mort. Tous les matins, ses enfants se rendaient près de lui, restaient pendant la journée dans le parloir en dînant devant son lit et ne sortaient qu'au moment où il s'endormait. La distraction qui lui plut davantage parmi toutes celles que l'on cherchait à lui donner fut la lecture de journaux que les événements politiques rendirent alors fort intéressants. M. Claës écoutait attentivement cette lecture que M. de Feulis faisait à voix haute et près de lui. Vers la fin de l'année 1832, Balthazar passa une nuit extrêmement critique, pendant laquelle M. Pierre Quint, le médecin, fut appelé par la garde, effrayé d'un changement subit qui se fit chez le malade. En effet, le médecin voulut le veiller en craignant à chaque instant qu'il n'expirât sous les efforts d'une crise intérieure dont les effets eurent le caractère d'une agonie. Le vieillard se livrait à des mouvements d'une force incroyable pour secouer les liens de la paralysie. Il désirait parler et remuer la langue sans pouvoir former de son. Ses yeux flamboyants projetaient des pensées. Ses traits contractés exprimaient des douleurs inouïes. Ses doigts s'agitaient désespérément. Il suait à grosses gouttes. Le matin, les enfants vinrent embrasser leur père avec cette affection que la crainte de sa mort prochaine leur faisait épancher tous les jours plus ardents et plus vifs. Mais il ne témoigna point la satisfaction que lui causaient habituellement ces témoignages de tendresse. Emmanuel, averti par Pierre Quint, s'empressa de décacheter le journal pour voir si cette lecture ferait diversion aux crises intérieures qui travaillait Balthazar. En dépliant la feuille, il vit ces mots, découverte de l'absolu, qui le frappèrent vivement, et il lut à Marguerite un article où il était parlé d'un procès relatif à la vente qu'un célèbre mathématicien polonais avait fait de l'absolu. Quoique Emmanuel fût lu tout bas l'annonce du fait à Marguerite, qui le pria de passer l'article, Balthazar avait entendu. Tout à coup, le moribond se dressa sur ses deux poings, jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les atteignit tous comme un éclair. Les cheveux qui lui garnissaient la nuque remuèrent, ses rides tressaillirent, son visage s'anima d'un esprit de feu. Un souffle passa sur cette face et la rendit sublime. Il leva une main crispée par la rage et cria d'une voix éclatante le fameux mot d'Archimède « Eureka !» Il retomba sur son lit en rendant le son lourd d'un corps inerte. Il mourut en poussant un gémissement affreux et ses yeux convulsés exprimèrent jusqu'au moment où le médecin les ferma le regret de n'avoir pu léguer à la science le mot d'une énigme dont le voile s'était tardivement déchiré sous les doigts décharnés de la mort. Paris, juin-septembre 1834.